En ce lundi 30 mai, nous accueillons notre évêque, Mgr Marc Ayé. Bonjour, Mgr Ayé.
Bonjour.
Bonjour, Violaine Ricourt-Dumas.
Bonjour à tous.
Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Lapourdie et de Radio Présence Lourdes Pyrénées qui sont à notre écoute. Alors, nous allons aborder plusieurs sujets aujourd'hui. L'actualité de notre pays et du monde. La démarche synodale qui va bientôt s'achever dans tous les diocèses et plus particulièrement dans le nôtre le 4 juin. Et puis aussi différents événements diocésains que nous allons évoquer avec vous, Mgr Ayé. Alors commençons peut-être par l'actualité de notre pays. Il y a eu ces élections présidentielles avec la victoire du candidat Emmanuel Macron. On se souvient que dans la précédente émission, vous nous aviez dit que ce n'était pas forcément votre candidat préféré. Peut-être une réaction tout simplement suite à cette élection et puis bien sûr, s'enchaînent les législatives, les élections législatives, alors quels sont les points d'attention qu'ont donné les évêques puisqu'il y a eu un communiqué de la Conférence des évêques de France.
Oui, comme je l'avais dit, bien sûr que Emmanuel Macron n'était pas forcément mon candidat. Pourquoi ? Parce que il a quand même accéléré le processus de la culture de mort pendant ces 5 années. Avec la PMA, les lois de bioéthique, les embryons chimères et la préparation maintenant de la GPA et de l'euthanasie. Donc évidemment qu'on est plus sensible sur ces points qui sont dits non négociables dans notre jargon depuis que Benoît XVI avait qualifié ces points essentiels de la doctrine sociale de l'Église. Cependant, moi je dirais, comme je l'ai dit dans mon message de Pâques, après le premier tour déjà des élections présidentielles, c'était le reflet d'un profond malaise en France, signe quand même de beaucoup de fractures au sein de notre société française, et certainement de colère et d'insatisfaction. Rappelez-vous, 4 blocs, le bloc Mélenchon, le bloc Marie Le Pen, le bloc Emmanuel Macron et le bloc abstention. Je crois que c'est aussi important de se dire que l'abstention, d'une certaine manière, comme on l'a dit, c'est le premier parti de France. Ce qui prouve qu'il y a un désintérêt profond pour la politique qui peut venir pour beaucoup de la déception profonde des Français par rapport à ceux qui les gouvernent. Donc je pense qu'on n'est pas... le résultat, ils sont présidentiels au second tour, c'était évident de toute façon, face à Marine Le Pen, que Emmanuel Macron soit élu. Mais je ne crois pas qu'il ait été plébiscité. Il a été élu par défaut et c'est pour moi plus une mauvaise nouvelle que le moyen de stigmatiser quiconque. D'ailleurs, ce n'est pas le problème. Il faut le chef d'État en prie pour lui. Comme l'a dit le conseil permanent de la Conférence des évêques de France, on a du respect pour la fonction qu'il occupe. Et donc c'est important de prier pour nos chefs d'État légitimement élus quand même, même si on voit bien que ce sera pour lui beaucoup plus difficile que dans le premier quinquennat.
Alors justement, Mgr Ayé, vous évoquez le conseil permanent de la Conférence des évêques de France qui, avant chaque élection, s'exprime. Le communiqué donc est sorti le 3 mai, après l'élection d'Emmanuel Macron. Pour les législatives, quels sont les points d'attention, nous, chrétiens, que pouvons-nous faire ? C'est important de voter, en tout cas.
Alors je crois que ce que souligne surtout le communiqué du conseil permanent, c'est l'inquiétude que l'on peut avoir devant l'abstention qui grandit en France, et en particulier chez les jeunes, et qui sont quand même les acteurs par excellence de l'avenir de notre nation. Et donc ils insistent beaucoup sur le fait que dans une démocratie participative, mais il faut que tous prennent leurs responsabilités et s'engagent aussi pour voter, parce que le vote c'est aussi une manière de poser un acte politique par définition et de servir le bien commun. De manière à ce que toutes les voix s'expriment. On sait bien que un scrutin majoritaire à 2 tours ne permettra pas forcément d'être le reflet de l'ensemble des citoyens, comme on le voit. S'il y avait une certaine dose proportionnelle, ce serait plus démocratique, me semble-t-il, et plus juste que ceux qui obtiennent quand même pas mal de voix au présidentiel puissent être aussi représentés de manière assez, j'allais dire, équilibrée à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors pour les points d'attention, ils sont les mêmes que pour les élections présidentielles. Et le Conseil permanent renvoie à ce document qu'ils avaient déjà publié avant les élections présidentielles, l'espérance ne déçoit pas, qui liste un certain nombre de points, dont celui du respect de la vie humaine depuis le commencement jusqu'à la fin naturelle.
C'est vrai que vous insistez souvent, Mgr Hayet, sur les questions relatives à la vie, à la défense de la vie, c'est normal. Est-ce que il ne faut pas aussi penser à l'économie, enfin, pour des élections, finalement, ça joue aussi pour la défense des plus pauvres, des plus petits, des migrants. Enfin, c'est assez large.
Bien
sûr. Il n'y a pas que la défense de la
vie. Non, mais c'est quand même la pierre angulaire. Moi, je reste un petit peu dans la pensée de Saint Jean-Paul II, hein, à travers son encyclique L'Évangile de la vie, qui dit toujours que le droit à la vie est le premier droit, hein, le droit fondamental qui est à la base de tous les autres. Si la vie n'est pas respectée à son commencement, quand elle est encore la plus fragile, la plus vulnérable, elle ne sera pas plus respectée, honorée chez, en effet, tous ceux dont on doit prendre en compte. Et Dieu sait, dans l'Église catholique, on est au service des exclus, au service des plus petits, des plus pauvres. Et ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est une chose qui fait partie de notre ADN et qui est quotidien dans la vie de l'Église. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je le redis aussi. Mais à la base, et c'est Benoît XVI qui dit ça dans son encyclique Caritas in Veritate. Il disait, si on ne respecte pas la vie et si on la promeut pas dès le premier instant, eh bien on ne trempera pas dans ce souci de la vie nos énergies pour servir de manière sociale les plus pauvres, les plus vulnérables. Et tout est lié, comme dirait d'ailleurs le pape François.
Lors de la précédente émission que nous avions réalisée ici même, Mgr Hayet, en février, nous avions posé des questions sur la situation en Ukraine, sur la guerre en Ukraine. Et suite à cette émission, le journal La Croix a publié un article vous mettant en cause, puisqu'il vous présentait comme un soutien de Vladimir Poutine, le président russe. Vous avez souhaité réagir, vous avez envoyé un droit de réponse au quotidien La Croix. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu votre position par rapport à ce sujet, à ce problème de la guerre en Ukraine?
Alors, rappelez-vous que l'article de La Croix n'a pas été suscité d'abord par cette interview, qui est arrivée certainement dans leur investigation après. Il était suscité par le voyage que j'ai fait en 2014 en Russie, qui était déjà maltraité par La Croix à l'époque, et entaché de soupçons, de soutien à un régime qui ne respecte pas les droits de l'homme. Moi, je suis parti en Russie à l'époque, un voyage organisé dans le cadre de la défense de la vie et de la famille, pas avec le gouvernement russe, mais avec le patriarcat orthodoxe de Moscou, dont je savais qu'ils avaient mis en place une commission patriarcale pour la pastorale de la famille, ce qui était une nouveauté absolue dans le monde orthodoxe, en lien avec le Conseil pontifical pour la famille à l'époque, qui existait même s'il n'existe plus maintenant, puisque il est intégré dans un dicastère plus important et plus large. Donc c'était en fait une réponse aussi à une venue pour le congrès pour la vie que nous avions organisé, vous rappelez, international à Biarritz en 2012, où un jeune catholique de Saint-Pétersbourg, qui fait partie du conseil patriarcal orthodoxe pour la famille, qui était invité à y siéger, qui était venu chez nous pour nous parler du travail qu'il faisait, et effectivement, quelquefois de manière un peu musclée, vis-à-vis du gouvernement russe, pour la défense de la vie et de la famille. Et donc c'était une réponse à sa visite chez nous, et pour rencontrer, dans un cadre assez œcuménique, les mouvements pro-vie et pro-famille, qui n'étaient pas gouvernementaux, par définition, hein, qui sont des associations privées, comme chez nous Alliance Vita, la Fondation Le Jeune, etc. Et j'avais d'ailleurs pris soin, au début de cette visite, de rencontrer le nonce apostolique à Moscou et l'archevêque catholique de Moscou, qui m'avait encouragé dans ce genre de démarche. Il se trouve que le calendrier, les hasards du calendrier ont fait que c'était le moment où la Russie annexait la Crimée. Mais vous savez, quand on prépare un voyage aussi loin et aussi long cours, de long cours, on n'est pas forcément au courant des dates du calendrier international. Bon. Et donc, ils avaient déjà mal vu ça et ils ont appelé le directeur de la communication au moment de la guerre russo-ukrainienne pour m'interroger sur ce voyage. J'ai répondu, vous leur dites que c'est un voyage œcuménique. Et puis point barre. Donc ils ont essayé de nous trouver plus, et de cette interview, ils ont pris le début où je dis qu'en effet il est très difficile à distance de voir exactement ce qui se passe, mais la suite montre bien qu'il n'y avait aucune connivence avec ce qui se passait, et j'ai dit même que le pape, puisque la question portait sur la condamnation par le pape de la guerre en Ukraine, et je dis que le pape dénonce cette guerre en redisant tout ce que l'Église pense de la guerre et de la promotion de la paix, est élémentaire. Voilà. Et donc j'ai considéré que d'avoir pris juste ce petit passage pour pouvoir m'épingler était de la désinformation. Donc j'ai appelé le rédacteur en chef de La Croix, qui lui-même était très embarrassé, et m'a dit « je ne peux pas vous donner tort ». Donc je lui ai dit « écoutez, je vous ai envoyé au directeur de la publication, comme il se doit selon la loi, un droit de réponse, donc j'espère bien que vous tâcherez de le mettre pour qu'on enlève tout malentendu ». Il m'a dit « il est évident qu'on le mettra ». Alors ils ne l'ont pas mis comme droit de réponse, mais ils l'ont mis dans le courrier des lecteurs le vendredi saint.
Donc vous ne soutenez pas Vladimir Poutine
et son agression. Mais je n'ai pas à soutenir Vladimir Poutine. Pourquoi voulez-vous que je soutienne Vladimir
Poutine?
Non, mais
c'est pour nos auditeurs.
Dans cette agression, vous remarquerez que le pape est extrêmement prudent, comme toujours l'Église dans le cadre de la diplomatie vaticane, et que lui-même, il essaie de ne perdre aucun contact avec aucun belligérant, de manière à promouvoir la paix. Vous remarquerez que le seul, aujourd'hui, dans le monde, qui a vraiment le souci de la paix dans cette région du monde, c'est le pape. Il n'y a aucun chef d'État Qui le suit. Au contraire, on voit bien qu'il y a une escalade de la violence, qu'il y a une surenchère des armements, et donc on voit bien qu'il n'y a personne au monde qui cherche vraiment la paix en Ukraine, sauf sans doute, je pense, le peuple ukrainien. Donc il faut être très raisonnable dans ces choses-là, et pas tout de suite sauter sur une espèce de alors qui est, de quel camp vous êtes? Il n'y a pas à être d'un camp particulier, on est du côté de la paix, on n'est pas du côté de la guerre.
Merci Mgr Hayé, nous nous retrouvons dans quelques instants.
Présence dans le Lauragais, 97.9.
Mgr Hayé, le pape François a appelé les paroisses du monde entier à parcourir un chemin synodal. Notre diocèse s'y est mis à partir du mois d'octobre à peu près. Comment s'est déroulé ce parcours qui va bientôt se terminer avec la clôture de l'Assemblée synodale le 4 juin.
Ce samedi 4 juin.
Alors, il était lancé, comme vous le savez, par la messe que j'ai célébrée le 17 octobre, je crois, c'est-à-dire la semaine qui a suivi l'ouverture solennelle de tout ce processus synodal qui s'achèvera en octobre 2023 avec le synode ordinaire des évêques, sur le thème donc de l'Église synodale, pour une Église synodale, communion, participation et mission. Et ensuite, nous avons fait une première grande assemblée synodale, je crois que c'était le 13 novembre, à Pau, à l'Immaculée Conception, et qui a rassemblé à peu près 192 ou 193 personnes, clercs, laïcs, consacrés, etc. Et ensuite, on a lancé ça, on a confié ça aux paroisses, aux mouvements, aux services, aux communautés religieuses.
Et à l'Esprit Saint.
D'abord à l'Esprit Saint, sans doute, mais enfin, en tout cas, on leur a confié de mettre en place là où ils étaient, en leur donnant quelques petits conseils, en leur donnant évidemment toute la littérature qui nous était venue de Rome par le secrétariat du synode, et puis en proposant aussi quelques pistes pour simplifier parfois le questionnaire qui pouvait être un peu compliqué, en tout cas, était ressenti comme tel. Je sais donc, nous avons fait le point à deux reprises, en particulier très dernièrement avec les doyens, au Conseil épiscopal élargi aux doyens, pour voir comment cette démarche synodale s'était déroulée dans les paroisses, les mouvements, dont nous avions quand même déjà un reflet, puisque les contributions étaient envoyées au fur et à mesure par les groupes sur le site dédié du Synode 64, et épluchées par notre secrétaire particulier ou spécial, qui est l'abbé Philippe Beitia, qui m'en a d'ailleurs proposé déjà une première synthèse, sur laquelle nous allons extirper deux ou trois questions pour la prochaine assemblée de clôture, le 4 juin prochain, veille de la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il en résulte en faisant le point déjà avec les doyens, qui évidemment ont fait leur enquête auprès de toutes les paroisses? Leur sentiment, c'est qu'il n'y a pas eu un enthousiasme et un engouement débordant pour cette démarche synodale, en tout cas de manière globale, même s'il y a toujours des gens qui, évidemment, se sont davantage impliqués que d'autres. Peut-être aussi parce que il faut reconnaître que cette démarche synodale était un peu inondée par la crise sanitaire dans un premier temps, qui n'en finissait pas, même si avant l'élection présidentielle, tout ça était, semble-t-il, résolu. Et puis par les élections présidentielles, qui n'ont pas non plus. Et puis la guerre russo-ukrainienne. Des événements de l'actualité française et du monde ont quand même occupé, pour ne pas dire préoccupé, les esprits. Et ce qui a rendu sans doute aussi cette démarche synodale un peu plus, j'allais dire, moins au devant de la scène. Après, quand on regarde un petit peu qui a participé, on se rend compte quand même, beaucoup de doyens disent, mais c'est vrai quand même que pour l'essentiel, ce sont des chrétiens habitués de nos assemblées, et plutôt le troisième âge, même s'il y a des exceptions bien sûr, hein, ici ou là. Difficulté de mobiliser les plus jeunes générations, un certain nombre de gens qui sont un petit peu désabusés par les démarches synodales en général. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec les doyens que ceux qui avaient déjà participé au synode de 1992, 30 ans plus tard, sont les mêmes qui planchent sur un sujet sur lequel ils n'ont pas forcément tout à fait prise, hein, la synodalité, communion, participation, mission. Le pape avait sans cesse rappelé que l'objectif du synode, c'était l'élan missionnaire. C'était la mission, c'est-à-dire l'annonce de l'évangile dans le monde, pour laquelle il fallait une communion, ce que au septième dimanche de Pâques, nous lisons dans l'évangile de Saint Jean, la prière sacerdotale de Jésus, qui dit « Soyez un comme mon Père et moi sommes un », c'est votre unité qui sera le signe pour que les gens croient que le Père m'a envoyé. Donc c'est sûr que la communion est une chose essentielle, avec cette articulation fondamentale que nous n'avons pas réinventée, parce qu'elle fait partie de l'essence même de l'Église, qui a été admirablement explicitée, précisée par le Concile Vatican II, en particulier dans la Constitution sur l'Église Lumen Gentium, entre le sacerdoce ministériel des fidèles, et le sacerdoce commun des fidèles, pardon, et le sacerdoce ministériel des prêtres. Qui fait que chacun a à participer là où il est, en fonction de la grâce de l'Esprit-Saint qu'il a reçue. Tous doivent participer à cette mission d'annoncer l'Évangile. Il ressort que, on entend à nouveau toutes les revendications qui étaient déjà présentes au synode il y a 30 ans et qui sont présentes dans l'Église depuis 50 ans, où l'on sent bien qu'il y a une certaine ambiguïté, voire une méconnaissance sur ce qu'est l'Église et son mystère, en essayant de la considérer comme une société démocratique comme les autres. Et on entend sans arrêt le gouvernement des laïcs, le mariage des prêtres, l'ordination des femmes, etc., etc. Hors sujet. Hors sujet parce que ce n'est pas du tout la question qui est posée par le pape aux fidèles, même si on les consulte, mais on entend toujours la même chose. Alors qu'est-ce que je dirais ? Je dirais que malheureusement, dans les contributions, même s'il y a beaucoup de belles choses, et je vais essayer de le dire, on s'est surtout inquiété du fonctionnement plus que de la mission à laquelle nous sommes envoyés d'annoncer l'Évangile. Alors, sans doute, un certain nombre de groupes ont été surtout dans les épreuves que l'Église traverse aujourd'hui. Le rapport de la CIAS concernant les abus sexuels dans l'Église, un certain nombre de choses comme ça qui ont aussi, c'est vrai, il faut quand même reconnaître, brisé un peu la sérénité au sein de l'Église. Donc ça, forcément, et c'est bien normal, inquiéter un certain nombre de groupes. Et donc, les a pas forcément non plus propulsés dans une espérance par rapport au témoignage que l'Église doit donner dans le monde d'aujourd'hui. Moi, je dirais que les choses positives, c'est qu'il y a un certain nombre de diversité qui ne s'exprimait pas dans l'Église jusqu'à il y a 10-15 ans, qui s'exprime aujourd'hui davantage. Et donc, il est apparu dans beaucoup de groupes qu'on a souligné le fait qu'il y a une plus grande diversité dans le diocèse. Bonne chose que tout le monde puisse parler et que tout le monde soit écouté, parce qu'il y avait des sensibilités qui, peut-être, avant, n'étaient pas trop, n'avaient pas forcément voix au chapitre. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je crois que beaucoup ont été intéressés par l'écoute de la parole de Dieu partagée. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il est apparu que la première démarche que nous avons eue de Lectio Divina partagée au cours de la première assemblée a été plutôt bien perçue dans les paroisses. et pour certains, c'était une nouveauté, qu'ils avaient envie de refaire nos diocèses. Très attentifs à l'accueil, je crois que ça c'est un point important, à centrer davantage leur vie sur le Christ, donc ça c'est aussi une chose très importante, et une espèce d'appétence pour une fraternité dans les diversités qui sont les nôtres aujourd'hui, davantage visible peut-être, davantage tangible au sein du corps ecclésial, non de diocèse, qu'autrefois. Donc je pense qu'il y a des choses très positives, même si encore une fois, il y a quand même toujours quelques malentendus qui sont exprimés.
Qu'est-ce que vous allez faire de ces retours? Est-ce que tout n'est pas pour le Vatican? Ça peut aussi permettre au diocèse.
D'abord, on va faire une synthèse qui sera. Alors, malheureusement, on est très en retard parce que je me suis rendu compte que en France, alors que le pape avait reporté la clôture de cette démarche synodale en diocèse au 15 août, nous, il fallait qu'au mois de mai, on donne déjà une synthèse diocésaine, alors que nous avons prévu notre démarche de conclusion le 4 juin, et que nous avons une assemblée plénière extraordinaire à Lyon, le 14 et 15 juin, donc les évêques, chacun amène un membre de l'équipe du synode diocésain, pour voir ce qu'on va faire de cette synthèse nationale. Donc on n'est pas très en avance, donc on donnera ce qu'il faut le plus vite possible, sans doute avant le 15 juin, mais pour nous, c'est l'occasion de rebondir sur les points positifs que nous avons entendus, concernant justement l'esprit de fraternité au sein de nos communautés chrétiennes.
Que va-t-il se passer le 4 juin à Bayonne?
Le 4 juin, c'est qui remplace ce qu'on avait appelé autrefois diocèse en fête. Donc ce sont un peu plus de représentants que la première fois. Il va y avoir une plus courte lectio divina au début de l'assemblée, qui aura lieu donc à Saint-Bernard.
À Bayonne,
évidemment. Ensuite, des groupes de partage par doyenné, mais dans lesquels on instillera, si je puis dire, des membres des communautés religieuses, des mouvements, associations de fidèles, et j'espère aussi des jeunes, que j'ai essayé de mobiliser davantage pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'on les entende et qu'on les connaisse, parce qu'il semble bien que dans beaucoup de groupes, ils ne connaissent pas les jeunes, au troisième âge, ils ne les voient pas beaucoup. Et puis, pique-nique tiré du sac, et ensuite on se déplace sur la cathédrale, où il y aura l'Assemblée Générale dans la cathédrale, avec remontée de chacun des groupes, et puis des temps pour digérer ce qui était entendu, par petits groupes de quatre, en se tournant vers ses voisins, pendant un certain nombre de minutes, puis ensuite expression des prêtres, parce que je rappelle que marcher ensemble, c'est tous ensemble, les prêtres, les consacrés, les laïcs, ensuite à nouveau un petit temps pour rebondir en petits groupes, un peu différents, se tournera vers d'autres que ceux vers qui on s'était tourné la première fois, et ensuite expression libre de tous jusqu'à la conclusion, et la conclusion en fait ce sera surtout la messe de vigile de Pentecôte qui aura lieu donc à 16h30 où là tout le monde est invité à la cathédrale et où de manière très significative il y aura confirmation des adultes, une trentaine, une quarantaine d'adultes qui se préparent à la confirmation et l'envoi en mission du parcours Cléophas pour bien montrer que le but de cette démarche synodale dans le diocèse c'est toujours, comme le pape nous le demande, l'élan missionnaire à relancer partout dans l'Église.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Nous revenons sur certains événements diocésains avec vous, Monseigneur Hayet. Beaucoup d'activités ont repris, heureusement, et c'était la journée pour les 6e-5e, le 14 mai dernier. Alors, avec les changements de date, d'âge, de confirmation, ce n'était plus une journée de préparation à la confirmation, je crois.
Non, c'était plutôt une journée de préparation à la profession de foi, on va dire, qui sera l'étape maintenant normalement conclusive, même s'il y aura toujours des jeunes qui seront confirmés après la sixième, parce qu'il y en a qui raccrochent les wagons après la catéchèse primaire. Je pense que la date de cette journée étant au mois de mai, au moment où il y a les confirmations, les communions, les professions de foi dans les paroisses, n'était pas forcément le meilleur choix.
Il y avait quand même une centaine de jeunes présents.
Une centaine de jeunes, oui. Mais c'est vrai que d'habitude,
moins que d'habitude,
plus. Et on pourrait davantage mobiliser à une période plus calme de l'année, ce que d'ailleurs tout le monde s'est accordé pour dire. Mais c'était, je crois, une belle journée quand même. Ces jeunes étaient heureux de se retrouver. C'est vrai que nous avons vécu deux années un peu en pointillés, où beaucoup de rassemblements de ce type ont été annulés du fait des restrictions sanitaires, des problèmes aussi de transport dans les bus et compagnie, de mélange de groupes. Bon, c'est sûr qu'on prend pas on n'affrète pas un bus pour 15 jeunes dans une paroisse. En général, on groupe tout le monde, ce qui n'était plus possible pendant un certain temps. Donc ce qui est beau, c'est de voir ces jeunes finalement qui sont heureux de se retrouver et heureux de ce qu'ils y vivent. À la fois c'est ludique, donc il y a des jeux, à la fois il y a des temps de prière dans lesquels ils entrent très bien, et puis des petites catéchèses, des petits topos. Moi j'aurais fait un petit topo sur justement la foi et le fait qu'il fallait continuer à approfondir sa foi, et que c'est pas parce qu'on était confirmé qu'on avait fait sa profession de foi, que tout était fini, et qu'on avait besoin de continuer à grandir dans la foi d'une manière autre, mais en se retrouvant avec des jeunes de son âge.
Les 20 et 21 mai, vous étiez à Pau pour la fête de Sainte Marie de Jésus crucifié, Mariam Bawardi. Vous pouvez nous dire un mot sur cette sainte, peut-être qui n'est pas très connue dans le diocèse. Hein,
en encore. Fait, il m'avait demandé, puisque c'est les Bétharamites qui, comme vous le savez, entretiennent le culte rendu à Sainte Mariam de Jésus crucifié, qui est une petite carmélite d'origine libanaise, mais en fait de nationalité palestinienne, puisque ses parents ont fui les persécutions de l'Empire ottoman à Beyrouth pour venir s'installer en Galilée près de Nazareth, et donc où elle est née, où elle a grandi. Une vie très difficile, parce qu'elle a perdu ses parents très vite, confiée à un oncle plutôt bon, mais qui a voulu la marier à l'âge de 12 ou 13 ans pour qu'elle soit protégée. Et en fait, elle avait donné son cœur à Dieu, donc elle a refusé ce mariage. Elle s'est enfuie avec la complicité d'un domestique de son oncle qui était un musulman et qui lui a dit si tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu es chrétienne, donc il faut que tu sois musulmane. Et elle a dit non, je suis chrétienne. Et donc il l'a égorgée. Elle a été sauvée plus ou moins miraculeusement, transportée par une dame qui semble être la Sainte Vierge dans une communauté où elle était rafistolée, si je puis dire. Et ensuite, elle a été placée comme domestique dans des familles. Elle a essayé de retrouver son petit frère qui était né après elle, qu'elle n'a jamais revu de toute sa vie. Mais donc, elle est retournée à Beyrouth. Et puis, finalement, elle est tombée sur une famille chrétienne qui l'a envoyée à Marseille. Et elle est rentrée dans une communauté religieuse à Marseille avec une certaine sœur Véronique. Mais au bout de 2 ans, elle a été exclue parce qu'elle avait des phénomènes mystiques qui dérangeaient la petite communauté. Alors comme la sœur Véronique voulait faire une expérience du Carmel, pour fonder un Carmel en Inde, eh bien elle est allée à Pau, au Carmel de Pau, avec la petite Mariam Bawardi. Et là, elle a fait profession et elle a été engagée dans la fondation du Carmel apostolique de Bangalore, donc en Inde. Puis ensuite, elle a eu les plans et la certitude qu'une fondation devait avoir lieu à Jérusalem, donc près de Jérusalem, donc à Bethléem, et c'est là qu'elle est morte.
Et surtout à Pau, elle a vécu la transverbération.
Et elle a connu la transverbération, c'est-à-dire cette grâce insigne qui avait déjà été celle de Sainte Thérèse d'Avila, donc un an après son entrée au Carmel de Pau, en 1867, donc en 1868, elle a l'expérience de la transverbération, c'est-à-dire eh bien, la blessure par un dard mystérieux, mystique, de son cœur, une blessure d'amour qui a consommé ses épousailles mystiques avec Jésus. Mais quand on a extrait son cœur après sa mort, parce qu'elle voulait que son cœur soit gardé à Pau, malheureusement il était volé dans les années 60 et jeté dans le Gave, mais il y a la blessure physique, il y a la trace physique de cette grâce mystique de la transverbération de Sainte Marie de Jésus crucifié. Alors moi j'étais invité pour présider les fêtes, comme chaque année, normalement c'est le 22 mai, mais là c'était le 19 et le 20, je crois, et on m'avait demandé de faire une conférence sur l'histoire du Carmel dans le diocèse. Et je me suis rendu compte qu'on a eu un diocèse qui a été pourvu seulement à partir de 1833, avec la fondation du Carmel d'Oloron, par l'un de mes prédécesseurs, Monsieur Darboux, qui pensait que la vie contemplative était le creuset d'une pastorale des vocations dans son diocèse. Et puis ensuite, Monsieur Lacroix, bien connu, qui était l'évêque donc de Saint-Michel-Guéricotte et de bienheureux Louis d'Orsestac, a fondé en 1852 un Carmel à Pau. Et puis un carmel à Bayonne en 1858. Il voulait que ce carmel soit destiné à soutenir par la prière l'œuvre, enfin ses séminaristes, hein, de son séminaire qui était à côté du carmel à l'époque. Voilà. Rappelez-vous, Saint-Enfant Jésus disant, j'entre au carmel pour prier pour les prêtres et pour les séminaristes. Et moi-même, j'ai donc fondé un carmel à Simacourbe en 2009, voyez.
Alors justement, ça nous fait une transition, puisque c'était les portes ouvertes du séminaire le 14 mai dernier, et une campagne pour soutenir les vocations est aussi lancée en ce moment. Nous allons avoir 3 prêtres ordonnés fin juin, donc c'est important de continuer à soutenir ce séminaire qui, je crois, contient 24 séminaristes,
si on compte les deux séminaires
voilà. De Bayonne.
Alors, si vous voulez, ça m'a justement donné à penser... Parce que un de mes prédécesseurs, je crois que c'était Monsieur Terrier, disait « Les vocations, c'est le bouillonnement de la foi. Et la foi portée à son, j'allais dire, à son paroxysme ici-bas, c'est la vie contemplative, la vie consacrée contemplative. C'est-à-dire ceux qui se consacrent, ceux et celles qui se consacrent totalement à la contemplation de Dieu dans le cloître. Hein, dans lequel elles vont vivre leur vie offerte et donnée. Et c'est pourquoi je comprends que mes prédécesseurs ont été si attentifs à pourvoir le diocèse de monastères de vie contemplative, consacrée contemplative. Belloc, les bénédictins, sont arrivés aussi dans ce même esprit. C'est un repère pour tous les chrétiens, pour tous les fidèles, qui leur rappelle la primauté de Dieu dans la vie. Et à partir de là... Ben, il peut y avoir une conscience vocationnelle à donner sa vie. Qu'est-ce que la vocation ? Mais toute vocation. Il n'y a pas que la vocation spécifique à la vie consacrée ou à la vie sacerdotale. Il y a la vie conjugale, mais il y a aussi, dans le célibat, on est aussi appelé à donner sa vie. Un chrétien, celui qui donne sa vie, hein, comme le Christ, et qui donne toute sa vie, chacun selon son état de vie, précisément, avec les grâces qu'il reçoit. Et donc, il a besoin d'être soutenu par ses témoins de la vie consacrée, contemplative en particulier, qui donnent toute leur vie pour Dieu. Et je pense que les vocations naîtront à nouveau de cette conscience vocationnelle qui consiste à donner sa vie. Voilà pourquoi il est très important de promouvoir la vie contemplative dans un diocèse. Et aujourd'hui, elle est quand même mise à mal, comme on le sait. Et très important de promouvoir aussi des communautés chrétiennes qui vivent radicalement la foi, c'est-à-dire une foi qui soit radicale, ça vient de radix qui veut dire racine, qui soit profondément enracinée dans la foi, et donc dans une vie donnée à Dieu à travers l'écoute de la parole de Dieu, la prière, d'oraison, la vie sacramentelle exigeante, voyez. Et de là, eh bien, naîtront à nouveau des vocations.
Alors il y aura donc les 3 prêtres ordonnés cette année.
Quatre prêtres. Je rappelle que c'est 4 prêtres qui sont ordonnés. Alors c'est vrai, vous avez raison, 3 pour le diocèse de Bayonne, Lescarolleron, donc un cardinal diocèse, qui ont été formés ou bien au séminaire des 5 heures de Jésus et de Marie, comme Louis Le Grel et Fabien Damet, ou au séminaire Rédemptoris Mater Saint Jean-Paul II, donc du chemin de catéchuménal, comme Manolo Borrero. Mais j'ordonnerai aussi, à la demande de son évêque d'Haïphong, Jean-Baptiste Buy, qui a fait toute sa formation ici, et qui va assurer un service dans le diocèse, au moins pendant 6 ans, puisque je signerai une convention avec l'évêque d'Haïphong, de 6 ans, pour qu'il puisse mettre à profit aussi la formation qu'il a reçue ici, au sein du diocèse, et puis en plus la langue française qu'il a apprise, ce qui n'est pas forcément facile pour un Vietnamien.
Donc ce sera le samedi 25 juin.
Samedi 25 juin à la cathédrale de Bayonne.
À 10h.
Voilà, 4 prêtres, 4 nouveaux prêtres, pour le diocèse, au moins 3 pour, définitivement et 1 temporairement.
Alors vous enverrez en mission aussi le parcours Cléophas ce samedi 4 juin, au cours de la clôture du synode. Et il y aura donc un nouveau parcours qui va être mis en route à la rentrée.
Voilà, c'est très important parce que ce parcours, cette deuxième promotion était un petit peu aussi éprouvée parce qu'elle est tombée en plein Covid. Alors ils ont été tout à fait valeureux. Souvent, ils ont fait des sessions par visioconférence, qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Et donc, ils ont demandé une année de plus pour parfaire leur formation. Donc, on en a forcément perdu en route. Mais ceci dit, le groupe qui sera envoyé en mission est extrêmement motivé. Hein, il a été très, très transporté par cette expérience de formation de disciples missionnaires, prêts donc à être opérationnels dans leur paroisse, avec leur curé, pour susciter hein, des actions missionnaires dans leur communauté. Et donc, j'appelle maintenant les curés de paroisse à envoyer, hein, dans ce parcours Cléophas qui recommencera en septembre prochain, une nouvelle aventure.
Pour terminer, peut-être saluons la nomination d'un nouveau cardinal français par le pape François.
Oui, nous sommes tout à fait dans l'action de grâce hein, pour la nomination, la création, comme on disait autrefois, comme cardinal de Mgr Jean-Marc Aveline, hein, archevêque de Marseille, que moi j'ai appris aussi à apprécier. Nous étions l'un à côté de l'autre jusqu'à présent, parce qu'on est par ordre alphabétique, hein, Ayet, Aveline, à l'Assemblée plénière, dans l'hémicycle.
Vous l'aviez rencontré aux obsèques du cardinal
Bien sûr, j'avais rencontré déjà beaucoup avant, parce qu'il était marseillais, moi j'étais à Toulon à l'époque, donc je le connaissais déjà comme vicaire général de Marseille à l'époque. Voilà, donc je me réjouis que la France est à nouveau un cardinal qui soit effectivement en poste actuellement dans un diocèse de France. Et puis hier, puisque c'est le 30 mai que nous enregistrons cette émission, le dimanche 29 mai, j'étais heureux aussi de participer à la basilique Saint-Pédis à Lourdes, à l'ordination du nouvel évêque de Tarbes-et-Lourdes, hein, qui est mon voisin immédiat. Donc Mgr Jean-Marc Mica, hein, qui était dernièrement supérieur provincial des Pères de Saint-Sulpice, mais qui est au départ un prêtre diocésain de Toulouse, et qui est né à Saint-Gaudens, pas très loin des Hautes-Pyrénées, et donc qui, je crois, a été très bien accueilli, évidemment, dans son diocèse. Ils attendaient un évêque qui soit à nouveau le gardien de la grotte. Hein, nous sommes allés en procession, tous ces prêtres évêques que nous étions, et tout le peuple qui nous a suivis, jusqu'à la grotte, où il a fait une prière pour prendre, j'allais dire, possession, si je puis dire, de cette grotte dont il devient le gardien.
Merci beaucoup, Mgr Marc Ayet, merci à Violaine Ricourt-Dumas et merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis.